Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Ora, mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale, insieme a altri tre ragazzi.
Bonjour, c'est un scandale dans le scandale et il défrait la chronique politique en Italie. Sur cette vidéo que vous entendez, le fondateur du mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo, prend la défense de son fils de 19 ans, mis en examen dans une affaire de viol en réunion. Oubliant toute la réserve qui s'impose quand on évoque une affaire judiciaire en cours, il accuse la victime d'avoir tout inventé, sur un ton et avec des arguments qui choquent. Cécile de Barge, vous êtes notre correspondante en Italie. Quel effet a produit cette vidéo?
Dans un premier temps, la stupeur. Il faut s'imaginer le chef de file du mouvement 5 étoiles, face caméra, en t-shirt gris, visiblement chez lui, hurlant que son fils est innocent, hurlant tellement qu'il est difficile de comprendre ce qu'il dit. Le ton n'est pas seulement agressif, il est violent, tout comme le contenu du message. Passé la stupeur, c'est la colère qui a pris le dessus. C'est peu dire que la vidéo a provoqué un séisme, d'abord parce que Beppe Grillo explique qu'il existe une vidéo des rapports sexuels, semblant ignorer qu'il est interdit de filmer l'intimité d'un rapport sans le consentement du partenaire. Une vidéo qui, selon lui, montre, je cite, « un groupe qui rigole, des jeunes de 19 ans qui s'amusent en slip et secouent leurs zizi », parce qu'au fond, ce sont quatre couillons, mais pas quatre violeurs. Fin de citation. Surtout, il s'en prend à la victime et interroge. Une personne qui se fait violer le matin va faire du kitesurf l'après-midi et dépose plainte 8 jours après. C'est étrange.
Les propos ont fait réagir les associations des droits des femmes, j'imagine. On sait qu'il est très fréquent qu'une victime ait besoin de temps pour réussir à porter plainte.
Exactement. Ces associations dénoncent une démonstration parfaite de ce qu'est la culture du viol. Sur Twitter, d'anciennes victimes ont publié leurs témoignages en expliquant ce qu'elles avaient fait le lendemain de leur viol et le temps qu'il leur avait fallu pour porter plainte. Une députée du mouvement 5 étoiles, victime de viol, elle aussi explique avoir eu besoin de 6 mois avant de pouvoir se rendre au commissariat.
Et à part cette députée du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, donc comment a réagi la classe politique?
Beppe Grillo a reçu le soutien de plusieurs hommes politiques 5 étoiles. Ceci dit, la plupart de ses acolytes du mouvement étaient particulièrement embarrassés. Soit ils n'ont pas réagi, soit ils ont dit comprendre le père de famille mais faire confiance à la justice. Quant aux femmes du parti, l'immense majorité a très sévèrement condamné Beppe Grillo. Même réactions outrées et indignées dans le reste de la classe politique, unanime pour le condamner, y compris dans les rangs du Parti démocrate, ancien allié de gouvernement du mouvement 5 étoiles. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Cette vidéo d'une affaire personnelle pourrait-elle compromettre l'alliance politique entre les deux partis et le futur de Beppe Grillo sur la scène politique? C'est la thèse, en tout cas, de nombreux éditorialistes de la presse italienne.
Cécile de Barge, correspondante en Italie. C'est le week-end, Accent d'Europe vous propose d'aller faire un tour des musées. On commence par la Suisse. Si je vous parle de la Toménie et du discours d'un petit barbier juif devant des milliers de soldats, vous aurez peut-être reconnu le célèbre film de Charlie Chaplin, Le Dictateur. Ce chef-d'œuvre vient de fêter ses 80 ans. Et le musée Chaplin, situé dans l'ancienne maison du réalisateur, lui consacre une exposition qu'on peut voir jusqu'à fin août. Près d'un siècle après sa sortie, le film n'a quasiment pas pris une ride. Au Chaplin's World, sur les bords du lac Léman, le reportage de Jérémy Lanche.
C'est l'une des scènes les plus connues de l'histoire du cinéma. Chaplin, en caricature presque parfaite de Hitler, jouant avec un globe terrestre qu'il manipule à sa guise avant qu'il ne lui explose à la figure. À l'origine, Chaplin voulait faire un film sur Napoléon, mais l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne modifie ses plans. Béatrice de Rennes est la directrice de Chaplin's World.
Quand Chaplin pense à faire ce film et qu'il veut se mettre en opposition avec Hitler, il ne connaît pas encore l'horreur des camps de concentration, et il va simplement montrer l'imposture de dictateur, le côté comique grotesque, jusqu'à vraiment en faire des caricatures outrancières, puisque tant Hitler, mais même les autres, que ce soit Himmler ou Goebbels, qui ont aussi des noms ridicules, comme Mussolini qui n'a pas l'ONI, etc. Même il s'est inspiré du personnage de Napoléon 20 ans avant, il pense à Hinkel, donc tout ça c'est en gestation dans son cerveau, et c'est certain que cette caricature, il n'aurait pas pu la faire s'il avait su vraiment qu'il y a eu autant de bains de sang, c'est sûr et certain.
Le dictateur représente représente un double défi pour Chaplin. Déjà parce que c'est son premier film parlant, et puis aussi parce que peu d'artistes osent s'en prendre à l'Allemagne nazie. Les États-Unis, où vit Chaplin, sont encore un pays neutre. Le tournage a lieu en pleine invasion de la Pologne en septembre 1939. La sortie a lieu, elle, un an plus tard. En tout cas, dans les pays qui ne sont pas occupés et qui censurent tous les films de Chaplin.
Il sort tardivement dans certains pays européens. Je pense aussi à l'Espagne, par exemple. Il ne peut sortir qu'après la période franquiste. Évidemment, en Allemagne également. En France, il sort en 1945. Il est reçu d'une manière mitigée. Et puis, c'est vrai que tout est la vision. Donc, il faut toujours du recul, je pense, quand on a l'événement, et l'événement de la guerre est encore trop proche en 45 pour comprendre la subtilité, le côté visionnaire du film.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white.
L'exposition ne fait pas que projeter les scènes marquantes du film. On peut voir par exemple la veste originale portée par Chaplin quand il joue le dictateur Hinkle, également des photographies inédites du tournage prises par l'assistant de Chaplin, Dan James, et qui révèlent quelques détails longtemps oubliés, comme l'explique Annick Barbeza-Perrin, c'est la responsable de la communication du musée.
La scène des chars, l'invasion, on a vraiment l'impression qu'ils ont tourné avec des vrais chars. Or, on dirait que ces chars, quand on voit les images de montage, ils font peut-être une dizaine de centimètres. Il y a des fausses bottes de foin qui ont été créées en miniature. Donc ça, c'est des choses dont on n'avait pas connaissance avant de découvrir ce fond photographique. On voit également la scène de l'avion où tout à coup Chaplin se retrouve la tête à l'envers. Et puis on ne savait pas clairement comment ils avaient tourné cette scène. Et en trouvant les photos de Dan James, effectivement, on voit sur les photos de tournage, les photos de plateau, qu'ils ont effectivement suspendu un avion à l'envers et que les deux ont dû passer un certain nombre de temps la tête en bas.
Ce qu'on voit, c'est qu'on rit beaucoup sur le plateau, malgré le contexte plombant de la guerre et la menace que fait peser Hitler sur le monde entier. Chaplin est fasciné par le dictateur au sens qu'il l'obsède. Il faut savoir que dès 1933, des dessinateurs de presse s'amusaient du rapprochement physique entre non pas Chaplin mais Charlot et Hitler. Et ce n'est pas leur seul point commun. Le comique et le dictateur ont le même âge. Ils sont nés à quelques jours d'écart et tous les deux ont acquis pour l'un une notoriété mondiale, pour l'autre le pouvoir, alors qu'ils ont des origines très modestes. D'ailleurs, Hitler a-t-il vu le dictateur ? Des proches de Hitler ont affirmé que non, d'autres disent qu'il l'a vu deux fois. Eugène Chaplin, l'un des fils de Charlie, ne sait pas quelle est la bonne version, mais il sait de sources sûres que le film était connu des régimes autoritaires.
Je ne me rappelle vraiment pas qu'on en ait discuté. Je pense que oui, c'est normal qu'il aurait vu ce film. Bon, je peux vous raconter une histoire un peu différente. C'est l'histoire de Ceausescu, président de la Roumanie, qui se fait renverser par le peuple. Et le premier film qu'on montre à la télévision, c'est Le Grand Dictateur. Comme nous gérons les droits, on voulait savoir où est-ce qu'ils avaient trouvé la copie du film. Et il paraît que quand ils ont envahi le palais présidentiel, il y avait une grande collection de vidéos, dont Le Grand Dictateur qui était là. Alors je crois que ça intriguait tous les dictateurs.
Le dictateur reste le plus gros succès commercial de Chaplin. Le paradoxe, c'est que c'est aussi celui qui marque le déclin de sa carrière. Mal aimé aux États-Unis, pourchassé par le macartisme et la presse à scandale, Charlie Chaplin s'installera ici, en Suisse, en 1952, dans son manoir de Ban, à Corsier-sur-Vevey. Il y vivra jusqu'à sa mort en 1977.
En Espagne, la ville de Cáceres a récemment inauguré un nouveau lieu consacré à l'art contemporain. C'est la fondation Helga de Alvear qui dévoile au public les trésors de cette galeriste d'origine allemande née en 1936. Des pièces de Louise Bourgeois, Olafur Eliasson, Kandinsky et même un Pablo Picasso figurent parmi les 200 œuvres exposées sur les 3000 que compte la collection. Visite guidée avec Diane Cambon.
Une lampe gigantesque, telle un lustre couché sur le sol, composé de 60 000 morceaux de verre rouge, c'est la première œuvre que l'on découvre en entrant dans le musée d'art contemporain Helga de Alvear. Cette pièce de l'artiste et activiste chinois Ai Weiwei fait partie des 200 œuvres exposées dans cet édifice de 8 000 mètres carrés, construit presque sur mesure par les architectes espagnols Tuñón pour abriter une collection variée et hétéroclite. Une collection de 3000 pièces au total qui s'est construite sur les coups de foudre de la collectionneuse Helga de Alvear. comme l'explique la coordinatrice du musée, María Jesús Aguilar.
Helga ne cherche pas à reconstruire l'histoire de l'art contemporain. Elle réunit des œuvres qui lui ont plu. C'est la singularité de cette collection. Cette collection s'est construite sur des coups de cœur. Elle tombe amoureuse d'une œuvre et se la procure. On y trouve des artistes très différents qui sont totalement contemporains.
Parmi les œuvres, des pièces de Louise Bourgeois, Nan Goldin, Doris Salcedo, mais aussi une édition rare de Los Caprichos, Les Caprices, des dessins de Francisco Goya, considérés comme une référence pour l'art moderne. Originaire d'Allemagne, Helga de Alvear collectionne les œuvres d'art depuis 40 ans. C'est grâce en partie au restaurateur José Polo et au chef étoilé Tony Pérez que le musée voit le jour à Cáceres, ville majestueuse mais un peu oubliée d'Estramadur.
Au détour d'une conversation, nous avons demandé à Helga ce qu'elle comptait faire de sa collection et je lui ai suggéré d'établir sa fondation à Cáceres. Sa collection est la star de la ville. À Madrid, au grand musée d'art moderne, Reina Sofía, ses œuvres auraient été noyées parmi les autres, alors qu'ici elles prennent une toute autre valeur. Et puis Cáceres a vraiment besoin de ce genre d'initiative culturelle.
Outre l'apport culturel de la collection, le bâtiment moderne, construit dans la continuité d'un palais ancien, donne un coup de fouet au centre historique. Pour Pablo, un visiteur, ce musée est une réussite en tout genre.
J'apprécie beaucoup l'intégration du musée dans l'espace urbain. On peut traverser le musée par la cour pour passer d'une rue à une autre. C'est très réussi. Et le musée m'a beaucoup plu. C'est une offre culturelle très dynamique que je recommande.
Helga de Alvear est devenue une figure incontournable de la scène artistique espagnole. Dans sa collection, on trouve les plus grands artistes ibériques comme José Guerrero, Eduardo Chillida ou Gordillo. C'est elle aussi qui a cofondé la foire d'art moderne et contemporain Arco, qui se tient chaque année à Madrid depuis 1982. Et elle ne cesse d'exposer de nouveaux artistes dans sa galerie, située juste à côté du musée Reina Sofía.
Les personnes vaccinées contre le Covid, et seulement elles, peuvent entrer dans les musées de Berlin. Mais pour visiter la galerie de l'East Side, nul besoin de ce qui ressemble fort à un pass sanitaire. Les œuvres sont en plein air et en pleine rue. C'est une portion de l'ancien mur de Berlin, peinte par différents artistes à la réunification de l'Allemagne. Le lieu a été classé monument historique en 1991, il y a donc tout juste 30 ans, et depuis, il a permis à cet art de la rue d'acquérir un nouveau statut. David Philippot.
C'est un ouvrage d'art unique au monde, de plus d'un kilomètre de long, au bord d'une quatre voies, un kaléidoscope de peintures alignées sur cet ouvrage de la mort, transformé en messager de la paix. Juste après la chute du mur de Berlin, plus de 100 artistes ont coloré le mur gris côté est, dont l'allemand Jim Avignon.
6 mètres, 7, 8.
C'est cet artiste de pop art qui peint alors la portion la plus longue.
Il y avait un petit bureau. On pouvait venir et dire « j'ai envie de peindre ». J'ai dit « je veux faire 10 mètres ». On m'a répondu « fais-en 20 si tu veux ». J'ai même pas eu besoin de montrer d'esquisses, ça n'avait pas d'importance. Je voulais peindre le chaos de l'époque. Et j'ai voulu représenter les choses les plus dingues, avec des personnages cartoonesques. J'ai peint une chaîne humaine, des néo-nazis qui se battent, ou la porte de Brandebourg avec le logo McDonald's.
Une fresque qu'il a repeinte une fois depuis pour moderniser le message, mais dans un quartier en pleine gentrification, avec la construction de tours de grand standing avec vue sur la rivière Spree, l'euphorie a disparu.
Les touristes qui passent ici ne peuvent plus s'imaginer à quel point ce mur était massif et menaçant, parce qu'il a l'air ridiculement petit avec ses immeubles en arrière-plan. Aujourd'hui, c'est un truc de pur business pour la ville. Oui, une machine à selfie.
En temps normal, East Side Gallery attire environ 3 millions de touristes par an. Le graffiti est devenu, comme la porte de Brandebourg ou la tour de télévision, une image de marque de la ville, comme l'explique Julie Valin. Elle est auteure du livre « Gouverner les graffitis ».
Berlin est une référence, Berlin est pionnière parce que c'est une des premières villes qui, à cette ampleur-là, a mis en place des dispositifs d'encadrement des graffitis, de reconnaissance de l'art urbain, de reconnaissance des artistes, de mise en avant de leur travail et qui en a fait un outil de son marketing territorial.
À Berlin, le tag, le graffiti font partie des murs. La capitale allemande, avec son espace et son sens de la fête, en font un terrain de jeu idéal pour les graffeurs. Pascal Feuchet dirige la galerie d'art Urban Spree.
Berlin, c'est une ville quand même avec la construction très bizarre. Ce mélange d'architecture, ces séquelles de la guerre en fait. Et donc très souvent dans les quartiers même principaux, vous allez trouver des zones où ça va se faire.
Partout dans la ville, des fragments de l'ancien mur sont devenus des supports de la mémoire. C'est le cas par exemple au square de la Liberté. Le visage de Khaled Saïd est peint sur deux anciens tronçons. Gabriel Dolph Bönnekamper est professeur d'art contemporain.
C'est le portrait d'un jeune Égyptien qui a été tué en 2010 pendant le printemps arabe. Ça garde le sens du mur de Berlin, c'est-à-dire de libération ou d'honneur pour les gens qui ont pris le courage de se défendre et d'attaquer un État autoritaire.
Et c'est comme ça que 30 ans après le classement d'East Side Gallery comme monument historique, Berlin continue d'incarner la liberté.
Musique avec vous, Vincent Théval, comme toutes les semaines. Bonjour.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
À l'affiche aujourd'hui, le groupe Crimi.
Le parcours musical du saxophoniste et chanteur Julien Le Suisse doit beaucoup à un souvenir de son enfance à Lyon, celui de sa grand-mère sicilienne qui lui fredonnait des airs traditionnels. Et depuis 20 ans, au fil de ses différents projets, Julien Le Suisse creuse cet héritage italien, mais aussi les influences arabes qui ont marqué la région. Aujourd'hui, avec son nouveau groupe Crimi, le musicien revisite la chanson sicilienne. Leur premier album s'intitule Luci e Gay, littéralement lumière et embrouille, et mélange des compositions originales et d'étonnantes relectures, voire réécritures, comme cette version rail d'une vieille chanson Mano d'Oro qui évoque le froid et la solitude de ceux qui s'en vont travailler dans le nord de l'Europe.
Oui. Amici, ma perché non mi venite a beccare? Amore, amore, quanto sei lontano. Continuo con Zanolla dalla sera. Continuo con Zanolla, sta con Zari. Ma la gente ti levi alla mattina. Ma la gente ti levi alla mattina. Oh mano, mano, toro, stanno a beccare.
Ce titre, Mano d'Oro. Accent d'Europe, c'est terminé. À la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez l'émission dans vos podcasts favoris sur RFI.fr et sur vos plateformes d'écoute, bien sûr. Bon week-end et à lundi.